Je vais surtout insister sur l'intitulé que nous avions choisi pour cette table ronde, c'est-à-dire qui n'était pas, comme vous l'avez vu, mémoire et littérature, parce que cette liaison-là ne pose pas de problème théorique, mais mémoire et fiction littéraire, puisqu'évidemment la mémoire renvoie à un passé empirique, attestable et vérifiable, et que la fiction implique une opération d'affabulation qui, a priori, donc, n'est pas tellement combinable avec l'idée de mémoire. Alors, il se trouve que même pour un travail ou une écriture, disons, qui porte vraiment sur une mémoire intime et subjective, comme La chair du temps de Belinda Cannon, il y a une opération de fiction qui s'est greffée, ou tu vas nous raconter comment les choses se sont passées, et qui permet en tout cas de nous mettre sur la voie de ce qui est vérifié chez Claude Simon, ce qui est vérifié chez Modiano, et ce qui l'est sans doute aussi chez les écrivains italiens dont tu parleras, Vincent. C'est-à-dire le fait que la mémoire est d'une part toujours entachée d'imagination, c'est-à-dire que la matière elle-même n'est pas absolument pure et qu'il y a un travail psychique qui fait intervenir l'imagination et donc la dimension de fiction est à peu près consubstantielle à la mémoire. Ça, c'est pour ce qui concerne la matière des livres. Et puis que la mémoire du XXe siècle, qui est quand même particulièrement tragique et douloureux, implique aussi un travail sur la manière, puisque c'est une des questions de Simon, par exemple, comment rendre ce magma confus dans une forme qui est qui est l'écriture et qui est destinée à, malgré tout, à être lue, donc lisible. Je pense qu'on peut commencer peut-être donc par l'évocation d'une mémoire subjective pour glisser ensuite vers l'articulation entre mémoire subjective et mémoire collective, et puis poser la question du témoignage de l'histoire, peut-être en dernier.
En effet, ce dont je vais parler là, c'est vraiment une mémoire intime, une mémoire subjective, entièrement subjective, et qui ne met en jeu et en scène que moi-même. Comme je vous le disais, un jour je suis revenue dans ma maison de Normandie, et qui n'est pas toujours occupée, et j'ai découvert au bout d'un assez long moment que des gens étaient venus, que les portes avaient été fracturées et qu'avaient disparu donc deux malles dans lesquelles il y avait ces journaux intimes et cette correspondance et ces photos. Et bon, c'est comme ça, ils étaient dans des malles. Pourquoi ces malles ont été volées, on n'en sait rien, je ne saurai jamais. Qu'est-il advenu de leur contenu, je n'en sais rien non plus. Est-ce que ça a été détruit tout de suite lorsque les voleurs se sont aperçus qu'il n'y avait que des papiers dans les malles? C'est possible. Est-ce que ça a été gardé? J'en sais rien. Qu'est-ce que je préfère d'ailleurs? Je n'en sais rien. Est-ce que j'ai envie que ça existe quelque part hors de ma portée? Je ne suis pas sûre. C'était des choses intimes. On n'a pas forcément envie qu'elles existent hors contrôle. Toujours est-il que, à partir de cet événement, je me suis retrouvée avec ce deuil à faire, comme on dit maintenant, de ma mémoire. Parce que tout ce que j'avais conservé, toutes les traces que j'avais conservées de ma déjà longue existence se trouvaient dans ces malles. Ne me restait que ce qui était dans ma tête. Et alors, qu'est-ce qui reste dans une tête de décennies de vie? C'est pas très facile de le savoir. La seule chose que j'ai pu faire pour essayer de m'en sortir avec ce traumatisme qui était pour moi épouvantable, il faut que vous l'admettiez, parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais quoi? C'est pas grand-chose, ça n'est que des journaux. » Pour moi, c'était la pire chose qui me soit arrivée. Comment j'allais m'en sortir? Bien, en faisant bizarrement, en répétant un geste qui m'était coutumier, c'est-à-dire en écrivant un journal. Sauf que cette fois, le journal que j'allais écrire, d'une part, j'allais l'écrire sur l'ordinateur, je n'allais pas me le faire voler une deuxième fois, celui-là, en écrivant à la main, comme j'avais toujours fait jusqu'alors, les journaux. Et surtout, c'était un journal orienté, c'est-à-dire je me suis mise à réfléchir sur ce qui venait de se passer en me demandant pourquoi c'était si douloureux et qu'est-ce que c'était qu'un journal, en me reposant des questions de base. Qu'est-ce que c'est qu'un journal? Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Pourquoi c'est important? Pourquoi ce qui m'arrive me paraît important et dommageable? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je n'ai pas oublié? Les traces de ce que j'ai vécu, où sont-elles? Est-ce qu'elles n'étaient que dans le journal? Est-ce qu'elles sont ailleurs? Donc tout le jour après jour, pendant 3 mois à peu près, je me suis posé des questions, la question de la mémoire. Mais sauf que cette fois, j'écrivais ce journal. Alors, c'est ce que j'ai fini par appeler un journal extime, non pas dans le sens que donne Annie Ernaux, comme je m'en suis souvenue plus tard, parce qu'elle a utilisé aussi l'expression de journal extime, mais elle, c'est pour dire qu'elle décrit le monde aussi autour d'elle, que son journal assume la description du monde. Moi, c'était extime au sens où il se trouve que 3 mois plus tard, mon éditeur a voulu publier ce journal, et donc il est devenu, contrairement au journal intime, il est devenu un livre public qui allait être lu à l'extérieur. Alors, évidemment, il y a 300 pages de réflexion sur la mémoire que je ne peux pas restituer là, et ce n'est pas tout à fait ça l'objet. Je voulais juste raconter 2 choses qui ont rapport avec notre thème. La première chose, je ne sais pas dans quel ordre il faut le faire, mais disons, je voudrais raconter comment j'ai terminé ce journal Extime, parce que ça m'a fait un effet de révélation intellectuelle pour moi-même quand j'ai compris ce que j'avais fait. Je vous le raconte en quelques mots. Une fois que l'éditeur, ça faisait 3 mois que j'écrivais autour de cet événement, et quand l'éditeur m'a dit on va le publier, oui c'est très bien, on va le publier, il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il se doutait que c'était un événement suffisamment traumatisant pour que ça ait pu donner lieu à un texte que d'autres auraient envie de lire. Et je me suis dit, bon d'accord, je vais lui donner, ça va être un livre donc. Mais alors comment est-ce qu'on... Un livre, c'est un objet qui commence mais qui s'achève, qui a une composition qui conduit à la fin, à ce qu'on boucle, à ce qu'on termine, à ce qu'on arrête. Comment est-ce qu'on fait pour terminer un journal? On peut mourir, mais bon, c'est un peu radical. Et comment on en fait un objet livre? Alors j'ai réfléchi un petit moment, comment j'allais arrêter, mettre un terme à cette écriture de moi-même dans ce journal. Et j'ai décidé que la meilleure manière, c'était d'écrire une fiction. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je me suis dit, je sortirai de la catégorie journal, écriture intime, et je vais boucler avec une fiction. Donc j'ai réfléchi à ma fiction longuement, c'était autrement difficile à faire que d'écrire les pensées au jour le jour, d'inventer une fiction. Et j'ai inventé une fiction, lentement, progressivement. Et je vais vous dire en 2 mots ce que raconte la fiction en question, sinon ce que je vais vous dire n'a pas de sens. J'ai imaginé que mon voleur, qu'il y avait un voleur qui venait me voir et qui me disait « Je suis ton voleur. Tu ne te souviens pas de moi sans doute, puisque tu as si mauvaise mémoire, c'est vrai, mais on s'est connus lorsque j'étais enfant, lorsque nous étions enfants, au lycée, et depuis cette époque, je ne t'ai jamais perdu de vue parce que j'étais amoureux de toi et tu ne t'intéressais pas à moi. Mais moi, je savais où tu étais, je te suivais, tu as déménagé moi aussi, tu as changé de ville moi aussi, je t'ai retrouvé à Paris, etc. Et toujours j'étais là dans les parages près de toi et toi, tu ne t'intéressais pas à moi. Alors voilà, c'est moi en effet, je vous fais la synthèse, c'est moi en effet qui ai volé tes mâles. Et c'est moi qui étais journaux. Et maintenant, je te propose un marché. Si tu veux m'épouser, en somme, enfin, entrer avec moi dans une relation amoureuse, je te rendrai tes journaux. Mais si tu ne veux pas, et tant que tu ne veux pas, chaque année, année après année, je détruirai un de ces journaux. Et ainsi, on remontera jusqu'au premier journal, le journal de l'enfance, que j'ai mentionné déjà dans d'autres textes et également dans la chair du temps. Donc le premier journal, le grand cahier orange que m'avait offert mon père pour y tenir le journal. Donc, me disait-il, je te laisse le choix. soit on fait affaire tous les deux, soit chaque année qui passe, tu sauras qu'un journal est détruit jusqu'au premier. J'ajoute que pour intégrer cette fiction dans un journal qui était absolument véridique, tout ce que j'ai écrit dans La chair du temps, c'est vrai, pour l'intégrer, j'ai raconté la fiction comme si réellement ça m'arrivait. C'est-à-dire, jour après jour, je raconte cet homme qui vient me voir chez moi, dans ma maison, etc. Je continue à l'entremêler de réflexions sur la mémoire, le journal, etc. De sorte que mes lecteurs ne peuvent pas savoir pendant longtemps que c'est une fiction. Et souvent, ils m'ont raconté qu'ils me lisaient, mes proches me lisaient en disant « Mais elle est folle. Mais comment elle l'a fait rentrer ? Mais elle m'a pas raconté ça. Ben, je comprends qu'elle me l'ait pas raconté. Quelle folie !» etc. Donc, j'ai vraiment essayé de mêler la fiction. Et puis, il y a un moment où ça devient peut-être un peu trop gros et on finit par comprendre. Et puis, de toute façon, je conclue en rappelant que c'est une fiction. Alors, j'ai fait ça. J'ai écrit cette fiction. Et pendant un ou deux mois après l'avoir écrit, je ne savais pas ce que j'avais écrit. Je veux dire que je ne comprenais pas profondément pourquoi j'avais écrit cette fiction-là et pas une autre. Et tout à coup, j'ai compris. Et c'est là que je rejoins notre sujet. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette fiction, finalement ? Qu'est-ce que ça raconte ? Cette fiction prend en compte le fait que j'ai perdu mes journaux. Elle l'assume. C'est important parce qu'on pourrait imaginer que la fiction sert à satisfaire, comme le rêve primaire chez Freud, que la fiction sert à satisfaire nos désirs immédiats, premiers. J'ai soif, je rêve que je bois, je veux manger un gâteau au chocolat, je rêve qu'on me propose un gâteau au chocolat. C'est vraiment le côté rêve primaire. Donc la fiction pourrait servir à ça, à mettre en scène ce que nous désirons. Or là, la fiction assume que j'ai perdu mes journaux. Je n'y ai pas accès, quelqu'un les a pris et les conserve. Mais cet homme me propose de me rendre mes journaux. Donc là, on retrouve le côté éventuellement consolateur de la fiction. On me propose de rendre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est comment je réponds. Comment le personnage de la nouvelle, le personnage féminin, répond à la proposition de cet homme. Elle lui dit « Il n'en est pas question ». Jamais je ne t'épouserai, jamais j'irai vers toi, tant pis. C'est-à-dire que le personnage dans la fiction, non seulement assume qu'on lui ait pris ses journaux, mais accepte de les reperdre, parce que c'est ça qui est mis en scène. Au fond, j'aurais pu récupérer mes journaux, puisqu'il venait me les proposer. Eh bien non, elle garde sa liberté, elle préfère sa liberté aux journaux. C'est-à-dire qu'elle repère les journaux. Seulement, quelle est la différence entre les deux façons d'avoir perdu ? La véritable, on m'a pris quelque chose à quoi je tenais et que je ne récupérerai pas, et puis la deuxième, celle qui est dans la fiction. Eh bien, dans la fiction, je décide de perdre mes journaux. Je renonce à mes journaux. Donc, à la fin de la fiction, on est revenu à la case départ, j'ai toujours pas mes journaux. Mais cette fois, c'est moi qui l'ai décidé. Quand j'ai réalisé que c'était ça que j'avais écrit, ça m'a apparu absolument éclairant sur ce que ça pouvait être la fiction, ce que pouvait être la fiction pour un écrivain. C'est une façon, pour le dire donc synthétiquement, c'est une façon de se réapproprier les éléments de la réalité et d'exercer notre liberté imaginairement, exercer notre liberté sur elle. Les passer au tamis de tout ce que nous sommes, voulons, pensons, etc., pour exercer notre liberté imaginaire sur elle. Et ça m'a paru vraiment être la définition même de la raison pour laquelle les écrivains, en tout cas une grande raison pour laquelle les écrivains écrivent de la fiction, c'est pour cet exercice de la liberté sur la matière du réel. Et voilà, ça c'était pour moi la grande découverte, disons, de ce que j'avais fait là, à mon insu, si je puis dire, en tout cas sans avoir eu cette intention au départ.
Finalement, la première motivation de cette fiction était une motivation technique, quasiment poétique. Il fallait finir le livre par quelque chose et donc la fiction correspondait à cette nécessité de composition. Puis il y a une sorte de bénéfice secondaire, psychique, que tu n'avais pas prémédité. Alors, composer par la fiction, ce n'est pas nécessairement non plus l'équivalent de composer avec la fiction. Par exemple, je pense que dans l'écriture du Jardin des Plantes, qui est en partie une écriture tournée vers la mémoire subjective et aussi vers la mémoire collective, la fiction ne remplit pas cette même fonction.
Alors, ça commence par du vide.
Ouais.
Hein, donc, je voulais montrer des images de vide. Je commence par montrer les traces de la perte de la mémoire. Hein, quand il dit qu'il ne reste de son passé qu'un magma confus. Hein, et pourtant, il n'a cessé d'écrire sur son passé. Ce sont des récits qui sont largement nourris de sa biographie. Hein. Et donc, il commence par exposer dans la mise en page même cette espèce de perte et ces trous de mémoire qu'on voit. C'est là, quand on ouvre le jardin des plantes, il commence par montrer son incapacité à ressaisir le passé, m'efforçant dans mon mauvais anglais, et il a dit que, en commentant ça, il a dit que ça aurait pu être m'efforçant dans mon mauvais français, Et puis, tout de suite après, il dit peut-être que j'avais trop bu, peut-être. Alors, donc, il y a vraiment des liens entre ce que tu as dit et l'expérience qu'il fait, parce que lui, il a participé à cette expérience collective qui est la guerre, mais dans ses récits, il mêle ses souvenirs intimes et des souvenirs qui appartiennent à beaucoup d'anciens combattants, ne serait-ce que ça. Et lui aussi s'intéresse à la question des traces. Qu'est-ce qui reste dans notre mémoire? Et il montre à la fois les trous et les traces. Et ça se présente comme ça, comme des bribes de mémoire, des bribes de souvenirs de périodes très différentes de sa vie, qui semblent affluer tous ensemble sur la page, dans une espèce de désordre qui est aussi la façon dont nos souvenirs ne sont pas organisés en réalité. Ils sont là et ils affluent. Alors, il y a cette perte et ce vide et ce constat que même sans voleur, en réalité, le temps se dérobe pour nous et il reste des traces. Alors, évidemment, ça s'intitule « roman ». Et lui aussi montre que il n'y a pas de fonction de consolation. Cette consolation est peut-être impossible. Et le deuil, c'est aussi une façon de dire que le deuil restera en réalité. La perte, elle demeure et elle demeurera jusqu'à la fin de sa vie. Et du reste, c'est son dernier. L'avant-dernier roman, le Jardin des Plantes, il va écrire un dernier roman qui s'appelle Le Tramway, dans lequel il fait le deuil de sa mère. Et pareil, le roman, finalement, le deuil ne s'arrête qu'à sa mort. Et l'écriture de soi ne s'arrête qu'à sa mort, puisqu'il est mort après avoir écrit le Tramway. Donc il y a vraiment des points d'écho. Et donc il n'y a pas de fonction consolatrice. On ne peut pas se consoler de la mort des êtres et de la perte de la mémoire qui les accompagne. Mais moi, je pense que la fiction a quand même, pour une part, une fonction réparatrice. Et en particulier, alors là, c'est différent, c'est aussi une fonction réparatrice qui est parcellaire, qui est incomplète, mais qui est dans le sens où, pour une part, le récit se substitue aux journaux perdus, où le récit se substitue aux mémoires disparues, en fait. Et je voulais montrer un peu la manière dont il construit en particulier un hommage à la mémoire d'un peintre qui a été son ami. Dans ce roman, il complète un texte qu'il avait écrit. Donc ce roman date de 1997. Il complète un texte qu'il avait écrit en 1962 pour son ami, le peintre Gastone Novelli, un peintre italien. C'était un texte très court, très très court, dans lequel il résumait brièvement sa vie. Et donc Gastone Novelli a été en fait, alors Coltimon pensait qu'il avait été déporté. En fait, il a juste, entre guillemets, été battu et emprisonné dans les prisons italiennes. Et puis, après cette expérience affreuse pendant la guerre, Il est parti au Brésil, où il s'est en partie perdu dans la jungle, et où il a finalement été sauvé par de la tribu des Guarani, en réalité. Et donc, en 62, il écrit un tout petit texte avec quelques lignes de résumé biographique, et puis ensuite, pas mal de descriptions de ses toiles, parce que c'est un petit texte qui doit servir de catalogue d'une exposition de ses œuvres. Et puis en 97, dans ce roman, il revient sur cette histoire. Et en 97, Gaston Novelli, il est mort. Et donc il y a vraiment une dimension de dommage à l'ami disparu et dommage à leur amitié. Et alors, il sait que le récit ne peut pas ni consoler, ni raconter une histoire de vie complète, ni voilà, ni tenir lieu de vie, etc. Donc, il fait deux choses qu'on retrouve chez Modiano. Il y a deux choses qu'il fait pour son ami et pour lui-même, parce que c'est aussi la mémoire de leur rencontre. D'une part, alors là, je peux pas vous le montrer parce que ce serait très trop long. D'une part, de ce qui n'était qu'un tout petit résumé de vie, il fait une aventure. Et ça fait une courte nouvelle qu'on peut vraiment isoler à l'intérieur du roman. Et dans cette nouvelle, il y a toute une part de récits attestés. C'est-à-dire qu'il ne cesse pas de dire « comme il me raconta, hein, comme il m'a dit ». Et de fait, donc de récits rapportés. Et puis, bien sûr, ce récit rapporté, il est en partie lacunaire, puisque c'est des conversations qu'ils ont eues au fil des temps de leurs amitiés. Et donc, dedans, il dit, il ne me dit pas si c'était arrivé vraiment comme ça. Et donc, en même temps qu'il restitue les propos de son ami, il les complète avec une sorte de mémoire possible. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il entremêle donc une dimension autobiographique, hein, puisque là, elle est réelle, hein, cette rencontre. Gaston Novelli, c'est un personnage tout ce qu'il y a de réel, hein, donc une dimension autobiographique avec une dimension fictionnelle qui, en l'occurrence, est fondée sur la vraisemblance. Et c'est très important que ce soit fondé sur la vraisemblance, parce que c'est vraiment témoigner de l'existence de Novelli. Alors ça, c'est le premier point qu'il fait. Et donc, c'est pour ça que je parlais du fait que le récit, quand même, pour une part, se substitue, hein, par l'expansion que lui donne la fiction, à cette mémoire perdue. Et puis, il y a autre chose qu'il fait, qui est un hommage à l'art de Novelli. Et c'est, en l'occurrence, c'est pour ça que je me suis arrêtée sur cette page particulière, qui est construire... Donc Gaston Novelli est peintre, et donc il va construire sa page un peu comme une peinture, et une peinture qui en fait rend hommage directement et indirectement au travail de Novelli. Alors directement parce qu'il cite des œuvres du peintre, et indirectement parce que sa page est aussi construite avec des raccords de couleurs et des compositions en cubes, hein, et en rectangle de taille différente, qui correspondent tout à fait aux toiles de Novelli. Voilà. Alors la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, et je pense que c'est une chose que ton éditeur a senti, c'est que cette incomplétude de la mémoire demeure, mais c'est aussi dans cette réflexion-là et dans cette part de la fiction qui pourtant demeure nécessairement inaboutie, hein, pour une part, on fait confiance quand même au travail du lecteur. Et je pense que dans cette réflexion sur la mémoire, il faut aussi rappeler que en regard de celle de l'auteur, il y a la mémoire du lecteur qui, par exemple ici, trace un chemin prévu par l'auteur, hein, mais complète le chemin prévu par l'auteur et complète par son expérience aussi sensible, charnelle, puisqu'après tout, nous savons tous que notre identité, elle est aussi liée à notre mémoire, hein. Et nous savons quand même tous, pour une part, ce que c'est que perdre en partie la mémoire. Et donc, il y a cette relation quand même très importante, je crois, à la mémoire du lecteur et à la lecture comme expérience de mémoire aussi.
Puisque là, Claude Simon fait apparaître les trous de mémoire par cette disposition tout à fait fragmentaire de son texte, est-ce que, Vincent, tu pourrais expliciter cette image du filet troué qu'utilise Italo Calvino?
Italo Calvino, c'est une expression qui appartient à une courte nouvelle qui n'a pas été traduite en français, bizarrement. Je pensais que tout Calvino avait été traduit en français. Il reste quelques textes à traduire, avis aux amateurs. Et c'est un texte de 1974 dans lequel Calvino revient, mais il l'avait fait dans des romans beaucoup plus célèbres et bien connus en France, sur son expérience de résistant, avec ses lunettes à lui qui sont très particulières. Calvino, c'est l'écrivain qui, avant que l'expression d'ailleurs soit très répandue et beaucoup moins qu'elle ne l'est maintenant, refuse l'idée même d'un devoir de mémoire. Parce qu'à un moment, on parle de trou de mémoire, on peut jouer sur les mots, on parle de trou de mémoire. Dionis Mascolo a écrit un texte, évidemment, sur Robert Antelme, qui s'appelle « Autour d'un effort de mémoire ». Donc, il y a cette idée, évidemment, que la mémoire doit se conquérir d'une certaine façon. Elle doit se conquérir, justement, pour vaincre le risque de l'oubli dont tu parlais. Et Italo Calvino, par cette image du filet troué de la mémoire, admet tout simplement que la mémoire laisse passer ce qu'il appelle des gros poissons, et ces gros poissons, seuls peut-être la fiction peut les faire réapparaître. Donc on revient sur cette idée, parce que le filet, ça m'intéressait, parce que le filet, on pense au tissu, on pense au texte, c'est la même étymologie. Donc on est dans cette idée, au fond, peut-être assez simple, et sur laquelle on pourrait peut-être se mettre d'accord, c'est que on attend de la littérature qu'elle arrive à recoudre les trous du filet. Bien sûr, le problème, c'est que le fil qu'utilise la littérature, il est d'une couleur différente que le fil de la mémoire. Et toute l'habileté d'un écrivain, me semble-t-il, c'est de faire en sorte que les deux couleurs soient les plus proches possibles. Je pense à un genre littéraire qui s'appelle le roman historique. C'est un genre qui, par définition, fonctionne sur les deux fils, mais de façon pas toujours très, très subtile. Une autre écrivaine italienne très connue en France, c'est Elsa Morante. Elsa Morante écrit en 1974 un roman qui a fait son succès international, qui s'appelle La Storia, non traduit en français, enfin, roman traduit, on a laissé le même titre, et elle est confrontée à cette question de l'agencement subtil entre sa mémoire individuelle et la mémoire collective. Parce que, évidemment, il faut à un moment accoler un adjectif au mot mémoire. Et elle n'y arrive pas. Et elle en est consciente. Ça se traduit dans le roman par cette chose avec laquelle qu'elle a défendu auprès de son éditeur qui ne voulait pas en entendre parler, c'est qu'elle fait figurer au début de chaque chapitre une sorte de, comment dire, de présentation pédagogique des événements historiques qui ont eu lieu dans l'année qui donne le titre au chapitre en question. C'est-à-dire qu'elle dissocie clairement, typographiquement, l'invention, l'imagination, la fiction et les faits, la mémoire collective. Donc là, il y a un problème d'articulation. Alors, Elsa Morante est naturellement une très grande écrivaine, mais là, il y a un problème d'agencement. Quitte à le Calvino résolu à sa façon, d'une façon tout à fait différente, c'est que pour aller contre le devoir de la mémoire, il faut aller vers une mémoire ludique. Donc, il met en place, alors que, encore une fois, il évoque la résistance. Alors, lui n'évoque pas la déportation, je parlerai de Bassani tout à l'heure. Il évoque la résistance, il évoque la guerre civile en Italie, il évoque les exactions fascistes, d'accord. Mais il le fait, vous le savez, par le biais d'un choix narratif qui d'ailleurs a surpris à une époque où dominait en Italie le néoréalisme. Le néoréalisme, d'une certaine façon, c'est une littérature, si l'on peut dire, qui réduit au minimum le rôle de l'invention, ou qui tenterait de vouloir réduire au minimum le rôle de l'invention. Italo Calvino, en pleine époque néoréaliste, Le Sentier des Nids d'Araignée date de 1947, propose un récit qui dérive volontairement vers une dimension onirique et fabuleuse, ce que permet, et là il y aurait beaucoup d'autres exemples, je pense là par mes écrivains français, ce que permet le choix d'un point de vue enfantin, bien sûr. Donc l'enfant, par définition, va mettre à distance la réalité tragique de la guerre, plus ou moins. On a d'autres exemples aussi en Italie. Donc tout ça, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est on est tous d'accord pour dire que, parce que nous on travaille sur le récit de la mémoire. C'est-à-dire, la mémoire, il y a trois niveaux. Il y a les faits advenus. Il y a le souvenir de ces faits, il y a le récit de ces souvenirs. Donc, ces trois niveaux, on doit normalement les retrouver dans cet ordre en général, dans tout récit dit mémoriel. Kundera nous apprend que cet ordre peut être inversé. Je pense à certains passages de l'ignorance en particulier, et de l'identité aussi, dans lesquels il montre qu'en fait, en parlant, donc en partant du récit, on fait réapparaître des souvenirs, ce qui inverse l'ordre fait mémoire, récit, ce qui est très intéressant. Et alors Kundera, moi je ne suis pas du tout spécialiste de Kundera, ni de littérature française ou en langue française, mais c'est vrai que c'est un nom là qu'on pourrait, je pense, exploiter beaucoup sur ce travail sur la mémoire. Kundera est quelqu'un, par exemple, qui se demande, mais au fond, peut-on quantifier ce... Je reprends l'image de Calvin. Peut-on quantifier ce que le filet ramasse quand il drague le sable au fond de la mer? Est-ce qu'on peut le quantifier? Il essaie de le quantifier dans un petit récit. Il dit peut-être qu'au fond, si je mets bout à bout tous mes souvenirs, ça me fait un film de 5 minutes. Sauf que, dit Kundera, la caractéristique de la mémoire, c'est qu'elle ne filme pas, elle photographie. Ça, c'est important. Parce que si elle photographie, ça veut dire qu'elle part d'images. Et le récit va mettre ensemble, va tisser ensemble ces images. Très souvent dans les romans, le déclencheur, c'est une image. Bah, Calvin nous dit, moi, j'écris à partir d'images mentales. Mais au-delà de ça, vous avez tout un grand nombre de romans qui commencent effectivement par la description, et de plus en plus, on pensait à parler d'Annie tout à l'heure, à partir de la description d'une photographie. Oui. C'est très courant. Donc c'est un déclencheur, je dirais, naturel du récit et de la mise en ordre de la mémoire. Parce que la mémoire, c'est ce que tu disais, a une fonction, une volonté ordonnatrice. Donc, faire du récit, c'est ordonner des moments, des images. Kundera parle de photos, hein, c'est lui qui utilise ce mot, dans un ordre qui donne du sens. Parce que la mémoire, c'est une façon de se réapproprier un sens et donc une justification, au fond, narcissique, d'une certaine manière. Donc, alors, je reviens à Calvin, je termine pour l'instant. C'est que Calvin donc, fait ce choix, qui lui a été beaucoup reproché, de non pas tenter un effort de mémoire, mais c'est une mémoire très proche, la sienne, hein, 47, un autre récit de consacré à la résistance est publié 2 ans après, Ultimo viene il corvo en Italie. Alors, je ne sais plus comment c'était traduit en français, je retrouverai, et donc 2 ans après. Donc, c'est très proche encore, mais il y a cette idée toujours de ce petit pas de côté, qui au moins permet de ne pas donner au texte mémoriel ce poids parfois un peu, qui fige un peu, solennel, et ce risque-là, j'en parlerai tout à l'heure, Bassani, lui, ne parvient pas à l'éviter. Mm-hmm. Il y a ce côté que l'écrivain, par définition, surtout lorsqu'il aborde ces questions hautement dramatiques, propres à notre siècle, comme tu l'as rappelé, il doit le faire pour que les jeunes générations accèdent à ce qu'elles n'ont pas connu. C'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire.
Oui, alors justement, c'est une des questions que je trouve très intéressante par rapport au texte que nous sollicitons là. C'est la question de la puissance transitionnelle de la littérature et de la puissance transitionnelle de la fiction en particulier, parce que tu l'as dit à propos de La chair du temps, Belinda. Et puis, il y a néanmoins le sens de la responsabilité par rapport au futur. Et entre autres, évidemment, par exemple, c'est le sens de Dora Bruder, c'est-à-dire qu'il y a un échec aussi. Dora Bruder s'achève par un échec, c'est-à-dire le secret de Dora Bruder ne sera jamais élucidé. Comment a-t-elle disparu? Quelles étaient les circonstances de la traque à laquelle elle a finalement succombé? Personne ne le saura jamais, puisque Modiano ne l'a pas trouvé. Mais il y a au moins la transmission de la question et de la responsabilité de cette question qu'il envisage comme alors un devoir absolument collectif et politique contre une sorte d'amnésie préméditée qu'il argumente en se fondant sur la géographie de Paris et sur toutes les traces géographiques qui ont disparu. Et voilà, cet effacement de traces qui n'est pas un effacement aléatoire ni fortuit ne donne pas de socle à un possible travail sur le passé qui puisse permettre de préparer le futur. Et même si c'est un échec, puisque Dora Bruder garde son secret, ce qui est une façon d'ailleurs de sauver aussi son identité aux yeux de Modiano, la transmission, elle, est une réussite. En fait, la transmission de cette question du passé et de sa valeur, non pas en tant qu'il est passé, mais en tant qu'il permet de préparer ou de préserver l'avenir. Alors, évidemment, ça c'est lié... Pour Dora Bruder, c'est lié à la question de la disparition des Juifs d'Europe, donc peut-être la question de la persécution juive, peux-tu enchaîner sur...
Oui, rapidement, mais c'est des choses qui sont plus connues. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je vais faire un parallèle entre l'œuvre Primo Levi, que tout le monde connaît, l'œuvre de Bassani, parce qu'au fond, ils abordent une même période historique, mais d'une façon très différente. Le projet bassanien, Giorgio Bassani, alors en France, toutes les œuvres que je vais rapidement évoquer sont traduites en français. L'œuvre complète de Bassagne a été republiée en France il y a une dizaine d'années chez Quarto Gallimard sous le titre, qui est le titre qu'a voulu Bassagne, le roman de Ferrare. Donc le roman de Ferrare reprend l'ensemble des textes fictionnels de Giorgio Bassagne depuis le début, milieu des années 50 jusqu'à ses derniers récits. Et naturellement, Bassagne, lui, j'étais là sur ma feuille de citation, il a une mission, où il se donne une mission qui est très claire, qui est, je dirais, un peu pesante, nécessaire, mais un peu pesante. Il l'exprime. Alors, il y a déjà cette chose qui m'a semblé intéressante quand j'en lisais Bassagne l'année dernière. Mais peut-on oublier, suffit-il de le souhaiter? Ce qui est déjà une façon d'articuler la problématique de façon assez originale, puisque en disant cela, naturellement, il nous laisse comprendre, il nous fait comprendre que l'écrivain n'est pas seulement celui qui cherche désespérément les poissons qui s'enfuyaient du filet, si vous vous souvenez de l'image de Calvino, il est celui qui, de toute façon, est amené à utiliser ce matériau qu'est la mémoire, au détriment peut-être des deux autres matériaux qu'utilise normalement un écrivain. Alors, quand je dis au détriment, c'est pas que c'est un emploi exclusif de la mémoire, c'est que c'est un emploi dominant de la mémoire. En gros, les écrivains, je parle sous le contrôle d'écrivaine, c'est utilisent la mémoire, la description et l'imagination. Et ça fait un ensemble qui produit du texte. Bassagne est dans une logique, lui, en tant que témoin des événements qu'il raconte, est dans une logique de fidélité à la réalité, parce que de toute façon, on ne peut pas oublier. Et donc, il se donne une mission qu'il rappelle clairement à plusieurs reprises. Je dirais, c'est une sorte de langue de bois de la fonction mémorielle de l'écrivain. C'est-à-dire, tout y est, l'importance de son rôle, l'idée de transmission qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que les jeunes générations doivent être, justement, par le biais de la littérature, entre autres façons, mises au courant de ce qu'elles ignorent. Donc, ça, c'est vraiment l'archétype du discours mémoriel, de ce que j'appelle, moi, le devoir de mémoire. L'intérêt de l'œuvre de Bassagne n'est donc pas là, me semble-t-il. L'intérêt de l'œuvre de Bassagne, c'est qu'au fond, il évoque, à partir d'une sorte de microcosme, de synecdoque, si vous voulez, qui est la situation précise des Juifs de Ferrare au moment où, en juillet 38, l'État fasciste italien décrète les lois antisémites, de montrer comment, évidemment, cette décision politique déboussole une communauté juive qui, en Italie, est relativement bien intégrée et oblige donc ces Juifs à changer de mémoire, d'une certaine manière, et à réactiver une mémoire que la plupart d'entre eux avaient un peu mis sous le boisseau, qui est la mémoire communautaire. C'est un peu la thèse de Sartre. L'idée, c'est qu'au fond, attaqués, ils se souviennent qu'ils sont Juifs, et ils vont se réapproprier cette mémoire qui, parce que ce sont des laïcs, parce que ce sont des, pour la plupart d'ailleurs, même ont été fascistes, parce que ce sont des Italiens qui ont contribuer à l'unification du pays, et donc ils se sentent plus italiens que juifs. À Ferrare, Bassagne lui dit bien, là, tout à coup, le point de vue change un peu. Donc il y a cet aspect chez Bassagne de sorte de récit qui ferme le plus possible les trous du filet, qui soit le plus précis possible, et évidemment, quelques années plus tard, arrive Primo Levi, qui lui intervient dans sa mémoire quelques années plus tard, puisque les récits de Bassagne... Bassagne ne décrit pas la déportation, parce que le point de vue de Bassagne, c'est qu'il n'a pas été déporté, donc il est dans une logique justement testimoniale. Il ne décrit que ce qu'il peut vérifier, soit par sa propre mémoire, soit en discutant avec les témoins des événements qu'il raconte. Primo Levi... Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Primo Levi publie... Donc, si c'est un homme, vous connaissez peut-être l'histoire, je vous la rappelle rapidement. Primo Levi écrit son récit. Voilà comment l'édition Einaudi, en 58, présente si c'est un homme. C'est intéressant parce que vous verrez que là, c'est la quatrième de couverture de l'édition de 58, on voit qu'on retrouve le mot témoignage, naturellement, mais on sent une sorte de difficulté de définir ce texte, ce qui est tout à fait légitime d'ailleurs. On a une difficulté à définir ce texte. Mémoire. On n'est pas du côté de la fiction, on est du côté des mémoires. Et Primo Levi, il faut le savoir, je vous le rappelle, a eu beaucoup de difficultés à publier ce texte. Il doit le publier à compte d'auteur en 47 chez un tout petit éditeur. Les grands éditeurs italiens n'en veulent pas. Il faudra attendre 58 pour que Einaudi accepte 58 pour que Einaudi accepte de publier ce texte qui est d'ailleurs traduit en français encore 20 ans après. Donc il faut encore attendre 20 ans. Donc là, il y a une question qui est cette fois-ci une question sur la réception du témoignage plus que sur le témoignage lui-même. Et lorsque Primo Levi écrit si c'est un homme, au fond, certains critiques disent, c'est évidemment une explication un peu simpliste, mais certains critiques disent que Primo Levi incarne la question du témoignage intégral, du témoignage incessant, qui, d'ailleurs, il allait dans les écoles, comme beaucoup de déportés revenus des camps l'ont fait en France et en Europe. Il allait dans les écoles régulièrement expliquer son parcours, et son suicide, pour certains, serait une des conséquences de cette prise de conscience tout à coup que le témoignage se heurte toujours à une sorte de mur, ce qui est confirmé par le travail de certains historiens. Je pense aux travaux en particulier de Georges Bensoussan sur la déportation des Juifs, qui nous montre qu'au fond, le plus grand nombre d'attaques contre les Juifs, de pogroms anti-juifs en Pologne, proportionnellement, a eu lieu au lendemain de la guerre et pas à l'époque des nazis. Ça voudrait dire que le témoignage incessant, nécessaire, d'une certaine façon, n'a pas d'effet sur le public qui le reçoit, ce qui est extrêmement pessimiste, et que, d'une certaine façon, à sa manière, Primo Levi a pu vérifier.
Finalement, on a quitté le domaine de la fiction. Et avec Bassagne, d'une certaine façon.
Non, Bassagne.
Parce que non, dans son intention, il veut garder la mémoire, porter témoignage, faire accéder à la mémoire ceux qui avaient oublié leur identité communautaire auparavant, etc. Dans ce que tu dis. Et finalement, là, on voit plus très bien la différence entre le travail de l'historien et le travail du romancier. Or, lorsque le romancier se joue ou écrit à partir de la mémoire, il fait autre chose. Et là, j'aimerais réfléchir, je n'ai pas d'idée préconçue, mais à cette idée de consolation quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi se sert-on soit des événements historiques, en effet, soit d'une histoire personnelle? Moi, pardon de parler encore de moi, mais j'ai écrit un livre sur mon père. Pourquoi j'ai fait ça? Pas pour me... Quand une fois qu'il était mort, non, pas pour mettre en avant mon histoire personnelle. Il me semblait que je devais, là, faire quelque chose qui, d'abord, en premier lieu, me consolait d'une certaine façon. Et, enfin, voilà, je voudrais que tu nous parles de ça, de ce travail de consolation qui est le propre du travail des écrivains et qui n'est pas celui des historiens. Les historiens doivent porter témoignage, doivent dire exactement ce qui a été. Pourquoi les écrivains s'emparent aussi de cette même matière? Et là, juste une hypothèse, moi je crois que ce que font les écrivains, c'est pas... les mailles du filet qui rebouchent ne sont pas exactement celles de l'histoire. Ce sont celles des histoires singulières, ce sont celles de l'histoire telle qu'elle est vécue par ces acteurs ou... Acteur parfois est un mot malheureusement optimiste, mais c'est ça qui est bouché par ce travail de la mémoire. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que sent le bonhomme, la bonne femme qui est prise là dans l'histoire. Qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle est dans cette histoire? Ce n'est pas la mémoire factuelle. Hein, donc, qu'est-ce qu'il apporte l'écrivain et éventuellement la fiction par rapport à ce travail de la mémoire? Il lui donne une épaisseur, il apporte de l'intériorité, du vivant, du singulier, là où l'historien donnait plus des faits, des événements qu'on peut vérifier, en effet.
Oui, alors juste un mot. Bassani, non, c'est vraiment... On est dans la fiction, hein, je n'ai peut-être pas été très clair, mais c'est clairement la fiction. Je ne mets pas sur le même plan Bassani et Primo Levi. Enfin, je relisais Bergman cet été. Évidemment, tu parles d'une mémoire... d'une écriture consolatrice. Y a le cas d'Albert Cohen qui me semble intéressant. C'est qu'il l'explique lui-même, alors pas dans ce texte, dans « Ô vous, frères humains », le traumatisme de l'antisémitisme, hein, de ce camelot qu'il insulte en tant que juif quand il a 10 ans. Il dit « Toute mon œuvre vient de là et toute mon œuvre n'est que ça ». Est-ce que pour autant son œuvre est consolatrice pour lui? Est-ce que l'écriture efface ou réplique la douleur de l'enfance?
Ma réponse, pardon, j'en ai une hypothèse en tout cas, mais là je parle d'une petite fonction de l'écriture et seulement pour l'écrivain, pas pour les lecteurs. J'ai éliminé les lecteurs de mon raisonnement, mais moi je crois que pour l'écrivain en tout cas, elle est consolatrice. Parce qu'à partir de ce traumatisme enfantin, tu racontes par exemple pour Cohen, eh bien, écrire, c'est s'emparer à nouveau du trauma et exercer sa liberté dessus en le pensant et en écrivant. Moi, je crois beaucoup à cette fonction de l'exercice de la liberté pour l'écrivain, encore une fois. Hein, ça ne dit pas ce que c'est que la littérature pour les lecteurs.
Oui, c'est-à-dire, en fait, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par traumatisme aussi, parce que si effectivement on considère que le trauma, c'est ce qui n'est définitivement pas symbolisable, bon, il n'y aura pas de littérature sur du trauma. Donc oui. Déjà, là, on le prend sans doute dans un sens un peu plus large, oui. Hein, ce terme de traumatisme. Alors, peut-être que sans ressaisir, fait éprouver l'exercice de la liberté, fait éprouver à l'écrivain l'exercice de la liberté et de l'ordre de la consolation.
Je suis très sceptique sur... consolation, puisque si on prend un exemple, puisque là il avait le livre de la mère, hein, donc effectivement il est orphelin de père à 1 an, donc il l'a jamais connu, et il perd sa mère à 11 ans. C'est quand même une histoire un peu lourde, et il ne va pas cesser, notamment de raconter la lente agonie de sa mère. Il ne s'en défera pas, donc je ne crois pas du tout à la fonction de consolation. Je crois qu'il y avait chez lui une nécessité absolue de s'en réemparer, peut-être pour le mettre à distance, de le réagencer ses souvenirs, les ajuster aussi, hein, puisque c'était un petit garçon, 11 ans quand même, hein, donc d'essayer d'en avoir une définition plus juste, au sens plus authentique par rapport à ses émotions, les émotions qu'il a ressenties. Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait une consolation.
En tant qu'état atteint, oui, peut-être qu'il vaut mieux parler d'une fonction réparatrice perpétuellement en cours. C'est vrai, c'est peut-être mon mot qui est mal choisi en l'occurrence. Mais pourquoi est-ce qu'il reparle de ça? Pourquoi est-ce qu'il y revient constamment sur cette mort de sa mère? Parce que c'est la seule manière de s'en sortir, c'est de ne cesser de réparer. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il en sort indemne. Mais il est obligé dans sa négociation intime de ne cesser de réparer.
Et puis, dans proposer des représentations qui sont très très différentes, hein, d'elle, puisque bon là c'était pour Novelli, mais c'est vrai pour d'autres qui cherchent à composer les souvenirs avec en mémoire tout un, c'est quelqu'un qui a voulu être peintre aussi, hein, dans sa jeunesse, et qui a été photographe aussi, donc avec cette composition des pages comme des images, et qui chaque fois sont aussi de nouveaux hommages, hein, je pense. Hein.
Tu soulevais la question des images aussi
Non, je veux juste revenir sur le fait que donc lui, il dit que c'est souvent des photographies qui sont le point de départ de sa mémoire, mais il dit une chose que je trouve aussi qui va tout à fait dans le sens de ce que tu as dit, qui est que on croit qu'on se souvient d'une image. C'est la position de Kundera. On croit qu'on se souvient d'une image, d'une photographie, et en fait, en même temps qu'on s'en souvient, on l'invente. Mmh. Et par ailleurs, il dit aussi que plus on travaille sur ses souvenirs, plus il en remonte, hein, avec de nouveaux enchaînements entre eux. Donc, je trouve ça, cette idée qu'on pense qu'on part d'une photographie, c'est quand même un document, hein, d'une certaine façon. Bon, et voilà, et en fait en la décrivant elle est déjà déformée, et voilà, donc c'est, je pense qu'il y a c'est ce sur quoi tu étais parti, c'est-à-dire que il y a toujours un entremêlement, une part imaginaire dans oui. le souvenir, mm-hmm. et a fortiori dans le ressouvenir.
Alors il y a aussi une opération, disons, qui se vérifie en tout cas dans le texte de Claude Simon, qui est la convocation d'une intertextualité littéraire, c'est-à-dire que en fait, qui déborde la question pure de la fiction, mais qui fait que le travail d'écriture et le travail de composition est aussi un travail qui assimile une mémoire de la littérature, en fait. Alors, dans le Jardin des Plantes, par exemple, comment est-ce que les choses peuvent...
Alors, dans le Jardin des Plantes, c'est très direct, mais je pense qu'on pourrait poser aussi la question à Belinda.
Oui, oui.
Dans le Jardin des Plantes, il s'approprie les mémoires d'autres témoins. Alors, il les cite, hein, directement, mais il montre très bien que sa mémoire, elle est aussi médiatisée par d'autres mémoires, voire, à certains moments, par d'autres supports. Par exemple, à un moment où il écrit à nouveau la mort de sa mère, en même temps, il est en train de se souvenir d'une toile de Poussin. Tu as lu beaucoup de journaux, j'imagine. Et travailler sur la littérature intime,
non,
tu as forcément filtre, en fait.
Non, pas tellement. Ça ne m'intéresse pas tellement, les journaux. Je me méfie de la... De la... Ah oui, je me méfie beaucoup de l'expression de soi, de la, du désir narcissique, au fond, d'apparaître. Et c'est pour ça que je dis que, finalement, dans ma vie, j'ai écrit deux récits. Enfin, dans mon travail, sur une vingtaine de livres, il n'y a que deux récits. Et c'est chaque fois, c'est pour ça que j'y suis revenue, c'est chaque fois des récits qui sont liés à des deuils. C'est-à-dire la paire de mes journaux, la paire de mon père. Donc là, ça, en effet, ça suscite en moi... Ça a suscité en moi une parole intime. Sinon, j'ai horreur de ça. Enfin, je trouve que c'est épouvantable.
Mais tu n'as pas l'impression parfois, ou peut-être c'est le lecteur qui peut ressentir ça, que dans tes réminiscences intimes se mêlent aussi peut-être des réminiscences autres. Ou peut-être ça fait partie de...
Est-ce qu'il y a tant de façons d'écrire des journaux? J'en suis pas si sûre. Je crois pas. Je crois que tout le monde en écrit un petit peu ou souvent. Enfin, parmi nous, les gens ont l'habitude et je crois que tous les journaux se ressemblent. Le contenu n'est vraiment pas le même, mais je sais pas s'il y a tant de façons d'écrire. En fait, je suis pas tellement spécialiste du journal intime, mais je suis pas sûre qu'il y ait tant de façons d'écrire un journal intime et je suis pas sûre que ça puisse être traversé par la lecture d'autres journaux. En tout cas, pour ma part, je j'aime pas tellement.
Ou pas forcément de journaux, puisqu'elle parlait de la part même aussi de textes fictifs. Parce que lui, il montre bien comment ça s'entremêle, hein, en fait. Son accompagnateur, c'est Proust. Et Proust, c'est pas une autobiographie, hein, quand même. Donc, voilà, même s'il y a tout un arrière-plan. Mais voilà, donc, comment dans ce récit de vie, c'est aussi... Bon, en même temps, un récit de vie, c'est aussi une vie de lecteur. Hein, donc, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, oui, je crois qu'en amont, il y a quand même cette idée qu'un écrivain, c'est d'abord un lecteur. Et que même dans une entreprise qui est une entreprise d'écriture et pas de critique de livres lus, par exemple, bon, effleure, justement, plutôt d'ailleurs, cette présence de la littérature lue qui...
Qui fait partie de sa mémoire.
Qui fait partie de sa mémoire et qui peut éventuellement... Alors ça dépend évidemment des cas ensuite, bien sûr, hein, mais qui peut éventuellement compléter des pans d'ombre ou éclairer des pans d'ombre. C'est-à-dire que... alors je vais prendre l'exemple de Dora Bruder pour être plus concrète... puisque c'est quand même le récit d'une quête très laborieuse et qui a pris des années, qui est ponctuée par des citations, on va dire, mais donc relativement longues, alors ou des mentions d'autres romans et d'autres romanciers donc, que cite Modiano, ou bien par des citations de passages. Et il y a un passage absolument magnifique qui convoque un passage des Misérables de Victor Hugo. Et en fait, Modiano présente Hugo et cette page, il s'agit en fait de la présentation du pensionnat rue de Picpus où était interne Dora Bruder. Et Modiano fait comme si finalement la lecture des Misérables l'avait mis sur la voie de cette rue de Picpus, et comme si tout son rapport à Paris et à ce quartier en particulier dans lequel qu'il a arpenté sans savoir qu'il était à la recherche de Dora Bruder, mais ce qu'il devine en quelque sorte a posteriori, en fait ces errances lui avaient été en quelque sorte soufflées par cette page des Misérables. Et alors ce que je trouve très beau dans ce passage, c'est que justement Modiano se présente comme un lecteur pour qui le travail d'écriture, dont le travail d'écriture en fait est la conséquence d'un travail de lecture ou la suite d'un travail de lecture, et il nous renvoie aussi à notre propre pratique de lecteur, puisque il dit explicitement, là, je cite, qu'il écrit pour lancer des appels, et en fait nous qui lisons Modiano, potentiellement pouvons écrire ou potentiellement pouvons mettre en lien, en relation ce livre avec d'autres livres. Et il y a alors une fonction qui n'est pas du tout donc directe de la littérature, parce que bien évidemment Hugo, écrivant Les Misérables, ne prévoyait pas le sort de Dora Bruder, mais c'est comme si l'expérience subjective de la lecture l'avait mis sur une voie, en quelque sorte. Hein. Et donc la présence de textes de fiction, Les Misérables est un roman, à l'intérieur de ce récit qui n'est pas fictionnel, c'est le récit authentique d'une enquête, montre à quel point finalement la fiction peut aussi avoir ce rôle d'orientation, pour pourrait le dire comme ça. Hein. La lecture des Misérables sert un peu de boussole. Alors, je ne sais pas si cette chose peut apparaître sous la plume de Calvino.
Mais en tout cas, ce qui est certain en t'écoutant, je pense à ça, c'est qu'en effet, lorsqu'un écrivain et son lecteur ne partagent pas la même mémoire, ce qui peut arriver lorsqu'un écrivain évoque justement des faits très précis, traumatiques, à des lecteurs qui 20, 30, 50 années plus tard découvrent un texte et donc découvrent cette vérité. Peut-être que la distinction, on pourrait d'ailleurs la faire entre réalité et vérité au fond, parce que la réalité, c'est donc la présence d'un témoin à des faits dont il est le garant et d'une certaine manière qu'il décide, mais pas forcément dans un cadre littéraire, de raconter. Donc il y a cette authenticité d'une présence. Pour qu'on puisse parler de témoins, il faut ça, au minimum. C'est pour ça que les historiens travaillent sur les témoignages et que pour nous littéraires, c'est un terme qui est plus complexe pour cette raison-là. Et d'un autre côté, lorsque cette mémoire, ces deux mémoires sont si éloignées l'une de l'autre pour des raisons biographiques, contextuelles, historiques, peut-être que le passage par la littérature sert alors de lien possible. Parce que l'écrivain qui va citer Victor Hugo se place sur un territoire que peut rencontrer le lecteur qui, 50 ans après, connaît aussi Victor Hugo. Oui. Et donc, la littérature, en effet, c'est à la fois la forme qui va mettre en linéarité les photos de la mémoire, ces fragments, mais c'est en même temps, je dirais, le but final de la mise en ordre de la mémoire. Finalement, notre mémoire linéaire, elle ne l'est que dans la littérature. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un peu simple. Simpliste peut-être au moment où je m'écoute, en même temps que je parle, mais il y a cette idée-là, au fond, c'est exactement intégrer de la linéarité. Mais cette linéarité reste problématique. Parce qu'encore une fois, je citais le roman historique tout à l'heure, et même dans l'exemple que tu donnais d'ailleurs, parce qu'à un moment, je me demandais, je n'ai pas lu ton roman, enfin ce récit, mais je me demandais, mais il y a une manipulation donc du lecteur, mais il y a toujours une manipulation du lecteur qu'on écrit, j'en suis conscient. Mais à quel moment tu attends, toi, que cette manipulation, le lecteur, l'aperçoive et, d'une certaine façon, s'en délecte ? C'est-à-dire, tu organises ton récit de façon à ce que, à un moment donné, ce passage-là, ce basculement opère, ou tu laisses le lecteur absolument libre et chaque lecteur aura une perception différente de ce moment-là, de découvrir cette supercherie.
En l'occurrence, là, ce qui m'avait amusé, c'était que le lecteur ne s'en rende compte que le plus tard possible, voire pas. C'est presque jamais arrivé qu'ils ne s'en aperçoivent pas à la fin. Puis de toute façon, à la fin du livre, je raconte la manipulation. Mais c'est vrai que j'ai fait en sorte qu'on y croit absolument. Mais ça m'a été vivement reproché par un spécialiste du journal intime.
Bah, oui.
Je ne sais plus qui c'était, je ne sais plus non plus pourquoi je l'ai rencontré, mais un jour m'a dit, ou m'a écrit en me disant, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous avez rompu le pacte de lecture. Vous avez triché, au fond, avec le principe du journal. Et il était assez furieux que j'ai fait ça. Donc,
mais ce n'était pas intitulé journal, c'était bien intitulé roman.
Ah non, non, ce n'était pas intitulé du tout. Non, non, il n'y avait rien. C'était pas un roman. De fait, c'est pas un roman du tout. Ah, c'était un journal dans lequel j'ai intégré une fiction. Moi, je ne dis rien d'autre. Qui fait 30 pages sur 300.
Ah, d'accord.
Oui. Ah oui, oui, c'est là, vraiment, c'est 30 pages finales. Mais c'est vrai que je triche. Là, tout à coup, on me suivait, on me croyait, on était avec moi. Et là, je mène un petit peu le lecteur en bateau.
Non, moi, c'est quand même une supercherie, mais qui doit faire sans doute la valeur de ce texte. J'ai envie de dire redire ce que disait Mauriac à propos de ce que disait Sartre à propos de Mauriac. Il faut être dedans ou dehors, quoi. Hein? Quand on fait de la littérature, on choisit un genre. Mais évidemment, les écrivains les plus intéressants sont ceux qui sont à la fois dedans et dehors, on le sait. Mais je pense que les lecteurs qui étaient habitués à tes textes précédents, la plupart d'entre eux ont pris ça presque jusqu'au bout comme une histoire réelle, qui était réellement arrivée.
Et donc, c'était la première fois que j'écrivais un livre personnel, si je puis dire. Donc, il n'y avait aucune habitude de rien. Oui, je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure autour de la mémoire des livres qui informe au fond le texte en train de s'écrire. Je crois que ça marche sans doute mieux dans l'autre sens, Marie. Tu disais ça aussi. Je pense que c'est pas le journal. C'est une forme assez simple finalement, linéaire et quotidienne. Je pense que c'est plutôt dans la fiction. C'est évidemment dans l'écriture de ce qui n'est pas intime que toute la littérature vient informer ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Et c'est pourquoi l'intertextualité, c'est vraiment un principe d'écriture. Enfin, je veux dire, c'est à la racine même de l'écriture, en réalité. On écrit avec tout ce qu'on a lu. Donc, mais pas dans le cadre du journal, je crois. Il me semble que c'est vraiment pour le reste.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le récent essai de Philippe Villain, La littérature sans idéal, où il fait cette distinction entre une littérature qu'il appelle une littérature célinienne, une littérature du coup de poing, où il reprend des choses assez courantes, assez connues. Et au fond, l'idée, mais il ne le dit pas clairement, c'est pour ça que je suis un peu embêté, mais est-ce qu'il y aurait dans l'histoire littéraire et dans la production très contemporaine l'idée d'écrivain qui voudrait justement faire l'économie de la mémoire? Est-ce que c'est possible? Enfin, ça serait quoi l'alternative d'une littérature de la mémoire? Parce que nous, on travaille sur mémoire et fiction. Est-ce qu'on peut envisager une forme de texte qui justement est délibérément, peut-être même un peu violemment, décide de sortir de cette emprise de la mémoire, de ce côté un peu bassanien que j'évoquais tout à l'heure, solennel, ce devoir de mémoire, et si oui, ça prendrait quelle forme d'un point de vue narratif? Pourquoi est-ce qu'il y a cette crispation dans nos sociétés sur la nécessité de redéfinir notre identité, enfin, nos valeurs, notre communauté? Donc il y a une crispation là-dessus des intellectuels, des politiques, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un danger, apparemment, que nos valeurs mémorielles se diluent, puisque des gens les défendent aussi fort. Donc ça, c'est une première question. Pendant longtemps, cultiver ce culte de la mémoire avait une fonction très précise et assez utopique. C'était au fond comprendre, je le dis banalement, hein, comprendre d'où on venait pour pouvoir construire un avenir meilleur. Aujourd'hui, on est une sorte d'oiseau auquel on a coupé les deux ailes, parce que d'une certaine façon, la mémoire est de plus en plus remise en cause. Alors, j'ai pas eu le temps de parler de Coquio, des travaux de Catherine Coquio. Elle travaille beaucoup là-dessus, parce que elle travaille justement sur le lien entre histoire, témoignage et littérature. Mais au fond, c'est quoi ce culte de la mémoire? C'est éviter le négationnisme. Elle travaille là-dessus. Négationnisme, pas forcément au sens historique ou politique qu'on connaît. Négationnisme, c'est justement l'idée que le témoignage puisse ne pas être valide, alors que nous construisons notre pensée sur l'idée que le témoignage est valide. Parce que si on nous dit que le témoignage ne l'est plus, tout s'écroule. Donc on est d'un côté avec ces pertes de repères, ces identités, ces valeurs un peu fluctuantes et qui semblent se désosser. Et d'un autre côté, ça c'est un moment un peu tragique, on n'a pas le recours à une sorte de futur consolateur. On parlait de consolation tout à l'heure, puisqu'on a aussi perdu l'espoir dans une société meilleure. Donc on est à un moment peut-être charnière, mais peut-être qu'à toutes les époques on était à ce moment charnière. On a souvent cette idée-là. Que fait la littérature? Enfin, est-ce que la littérature, moi je travaille pas sur le très contemporain et encore moins sur le très contemporain du côté de la littérature française, mais est-ce que vous sentez, vous spécialiste, quelque chose qui se passe dans les textes très contemporains qui serait de l'ordre de, on veut dépasser l'obligation du devoir de mémoire ou on veut l'exprimer autrement?
Je pense que la mémoire de la déportation et les questions du négationnisme sont quand même à part, enfin, je pense qu'on ne peut pas tout à fait le traiter comme la mémoire générale. Bon, que c'est aussi autour de ces questions qu'il y a un certain nombre de tensions. Mais moi, je trouve paradoxal de penser une littérature sans mémoire, parce que dès lors, on se dit, alors le livre ne dure pas. Le livre en lui-même est la trace d'un travail. Et donc, est forcément... garde le souvenir du travail qui a été fait au moins pour le faire. Et donc je ne vois pas comment on peut penser, alors après moi je suis pas une experte des livres, ça existe hein, maintenant les livres qui s'écrivent à plusieurs en ligne et dont on ne sait pas trop bien ce qu'ils vont devenir et sous quelle forme, est-ce qu'ils vont être conservés, est-ce qu'on gardera mémoire du geste d'écrire, y compris à des livres qui sont fabriqués avec des échanges de messagerie instantanée. Donc on est dans un tout autre rapport au temps, bien sûr. Mais il me semble que un livre, c'est déjà une épaisseur de temps.
Et puis qui justement, même s'il n'est pas explicitement tourné vers la mémoire, il est en tout cas projeté vers l'avenir. Enfin. C'est effectivement un rapport à la temporalité dans les deux sens. Donc j'imagine assez mal, enfin j'ai pas du tout lu l'essai de Philippe Villain, donc je me prononcerai pas du tout, mais j'imagine assez mal une littérature qui ignore le temps, en tout cas. Alors peut-être qu'il refuse de ressasser, ça c'est possible, hein. Est-ce qu'on peut imaginer une littérature qui envisage simplement de se consommer au présent? Ça me paraît paradoxal.
Mais si là, c'est surtout c'est peut-être une littérature. Peut-être. Poser la question, non, plutôt. Là, c'est vraiment comme lectrice, je dirais, mais surtout une littérature qui n'a pas de mémoire. Et encore une fois, pas la mémoire historique, mais qui n'a pas la mémoire de la littérature, pour commencer. C'est une littérature généralement plate et sans intérêt et répétitive. Alors comment on pourrait inventer sans mémoire de ce qui a été fait? Et ça me paraît absolument impossible. Donc, je n'ai pas lu non plus. Oui. C'est drôle mais que lui qui a écrit quand même beaucoup d'auto-bio, auto-fiction, etc., tout à coup se pose des problèmes bizarres.
Non, mais parce que je les ai très mal résumés, bien sûr. La lecture, c'est pas bizarre du tout. Si lui travaille sur ce resserrement, justement, et d'une certaine façon, il évoque l'autofiction. Il travaille sur, donc il cite l'auteur de l'autofiction, et il voit dans l'autofiction une façon, peut-être, de se rétracter de cette ambition que pendant très longtemps ont eu les écrivains d'être justement de proposer des œuvres comme j'ai dit tout à l'heure synecdochales, c'est à partir d'un texte justement on rétablit un univers et c'est la mémoire qui permet de faire ça. Et peut-être y a-t-il une certaine tendance, moi je pense à des auteurs italiens mais qui sont pas très connus en France, qui confirmeraient cette idée, une sorte de refermement sur soi-même. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mémoire, c'est la mémoire de soi-même, mais c'est des monades. C'est-à-dire, si chacun commence à écrire des mémoires de soi-même, c'est quel est le lien? Donc c'est une ambition un peu révisée à la baisse, c'est un peu sa thèse dans ce texte.
Mais en même temps, oui, enfin, puis moi je ne suis pas du tout passionnée par l'autofiction, donc je ne vais pas la défendre là, mais en même temps il me semble qu'un écrivain d'autofiction, même s'il écrit sur lui-même et pas sur les autres, à partir du moment où il écrit et où il publie, entre malgré tout dans une démarche intersubjective, parce qu'il écrit quand même pour être lu par d'autres, et si l'autofiction a des lecteurs, parce que de fait il y en a, c'est bien que les lecteurs reconnaissent quelque chose d'eux-mêmes, même dans le sujet qui s'est pris pour centre de l'autofiction. Enfin, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là,
j'imagine. Oui, il y a une circularité, mais qui est ou réduite ou moins ambitieuse, liée probablement au fait, c'est ce qu'il explique en tout cas, si j'ai bien compris sa thèse, son essai, liée probablement au fait, ou peut-être sommes-nous en train de sortir, ou sommes-nous un peu las, justement, de ces œuvres monumentales, je citais Bassin.
Du ressassement du devoir
du ressassement.
Moi, je pense que ça a été et alors que le terme devoir n'était pas forcément bien choisi, et c'est pour ça que je voulais vous montrer la première page du Jardin des Plantes, parce que c'est m'efforçant, donc on est dans l'effort, mais pas dans le devoir.
Et absolument pas
dans le devoir.
L'effort est nécessaire, le devoir évidemment c'est un terme qui est devenu péjoratif, devoir de mémoire, devoir de mathématiques, enfin, bref, c'est un terme qui a pris une connotation un peu négative, parce qu'on est dans l'obligation. L'effort, oui, l'obligation, c'est deux choses totalement différentes.
Qui insinue la dette aussi, ce qui n'est pas très sain non plus.
Qui culpabilise.
Donc je propose de faire circuler le micro une dernière fois. Ici.
Bon, je voudrais, en notre nom à tous, vous remercier de votre présence. Voilà.